France Culture, excellente matinée à tous, 10h30. Dans le cadre de tout un cycle d'émissions consacrées à Gilles Deleuze sous de multiples facettes jusqu'au 3 mai prochain, cette série des chemins de la musique, Gilles Deleuze, la musique et les musiciens, une série proposée par Bastien Gallet.
La vague qui approche, au contraire, je m'en sers.
Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.
Au cours des quatre premières émissions de cette série, nous avons longuement évoqué et commenté les écrits de Gilles Deleuze sur la musique, là où les manières dont il avait influencé certains compositeurs. Nous avons même tenté de montrer en quoi ces concepts permettaient une compréhension nouvelle de la musique, mais à aucun moment nous n'avons jusqu'à aujourd'hui parlé de Gilles Deleuze comme d'un musicien. Alors, vous n'avez pas fait, me direz-vous, parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Gilles Deleuze n'était pas musicien, pas plus que n'était Socrate, qui regretta cependant, à la veille de sa mort, de ne pas avoir connu la musique. Alors, s'il nous est difficile d'imaginer Socrate musicien, il n'en est pas de même pour Deleuze, c'est ce que nous voulons tenter aujourd'hui, avec l'aide de Richard Pinas, musicien, ami de Gilles Deleuze et auteur des Larmes de Nietzsche, un ouvrage paru l'année dernière d'édition Flammarion, portrait du philosophe en musicien.
Entre deux singularités, il y a un type de rapport qui s'appelle original et logique de l'événement exige que ce type de rapport soit spécifique. Qu'est-ce qu'un rapport et de quel type sont les rapports entre singularités? Et la dernière fois, j'ai avancé une hypothèse à partir de l'idée suivante. C'est qu'une notion aussi bizarre que celle que Leibniz instaure en nous disant si vous prenez un ensemble de possibles, ils ne sont pas forcément compossibles. Donc la relation de compossibilité et d'incompossibilité serait ce type de relation entre singularités. Adam non-pécheur est incompossible avec le monde où Adam a péché. Encore une fois, c'est ça qui m'importe, comprenez bien. Adam non-pécheur est contradictoire avec Adam pécheur. Mais n'est pas contradictoire avec le monde où Adam a péché. Simplement, entre le monde où Adam a péché et le monde où Adam ne pêche pas, il y a incompossibilité. Donc, la situation de Dieu quand il crée le monde est très bizarre, vous voyez. Et ça fait partie des idées les plus célèbres de Leibniz. La situation de Dieu quand il crée le monde, c'est que Dieu se trouve à... dans la situation où il choisit entre une infinité de mondes possibles. Il choisit entre une infinité de mondes également possibles, mais qui ne sont pas compossibles les uns avec les autres. Dans l'entendement de Dieu, il y a une infinité de mondes possibles, et Dieu va choisir parmi ces mondes possibles, qui ne sont pas compossibles les uns avec les autres, il va choisir l'un d'entre eux. Lequel? Heureusement, on n'a pas encore à s'occuper de cette question, mais c'est facile à deviner la réponse de Leibniz. Il va choisir le meilleur. Le meilleur.
Gilles Deleuze, donc dans un cours...
On voit bien qu'il est musicien.
Hein,
la manière dont il parle, la manière dont il scande les mots, sa voix, le timbre, c'est une diva, quoi.
Un cours que vous avez donc mis en musique, dans l'album que vous avez réalisé donc avec Maurice Dantec, Schizotrope, paru sur le label Sub Rosa, il y a 2 ans.
Ouais, c'était une idée comme ça de mettre la voix de Gilles en fin de musique. Donc il y a juste un petit fragment de cours. Une fois dit qu'on a enregistré ensemble, enfin je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, les cours de deux, c'était, enfin il se voulait un véritable pop philosophe, donc les cours étaient comme un concert, c'est-à-dire qu'à la fin il y a des gens qui allaient dire merci comme on pouvait dire merci à un groupe rock, quoi.
Les cours qu'ils faisaient à Vincennes
puis ceux qui faisaient à Saint-Denis après.
Alors peut-on imaginer Deleuze musicien, ou qu'est-ce que ça aurait comme conséquence d'imaginer Deleuze en musique?
Mais il n'y a même pas lieu de l'imaginer, puisque sa philosophie c'est une musique, grand 1, sa philosophie est écrite, il a un des plus beaux rythmes, un des plus beaux styles rythmiques qui soit, le rythme de ses concepts, le rapport entre ses concepts et la musique, faut rappeler que ses concepts fondamentaux, enfin j'en prends quelques-uns, cette différence de répétition, de durée, sont des concepts qu'on retrouve dans toute la musique en général et particulièrement dans la musique électronique aujourd'hui. Il n'y a pas de musique électronique qui ne se fasse pas à base de cellules répétitives, de répétitions, etc., de répétitions en différence. Il y a ensuite Deleuze qui enregistre un texte de Nietzsche, donc il est immédiatement musicien, mais je pense qu'il n'est jamais plus musicien que pendant ses cours, puisque ses cours sont d'abord il y a la voix, et donc la ritournelle de la voix qui a un timbre tellement particulier, tellement fort, tellement puissant que c'est déjà presque une fin en soi, presque une joie en soi. Et puis les espèces de tours de bande de Möbius en retour qui font que il y a une boucle dans la boucle pour se finir dans quelque chose qui ressemblerait à une philosophie du troisième genre de connaissance.
Alors Deleuze, musicien, encore une fois, cette fois-ci avec vous, Richard Pina, 173, une lecture donc d'un texte de Nietzsche, Le Voyageur et son ombre. Trop humain, extrait donc de Nietzsche, lu par Gilles Deleuze en 73, donc un morceau qui a un destin assez particulier. Est-ce que vous nous expliquez un peu les circonstances de l'enregistrement et puis ce qui est devenu ce morceau par la suite, Richard Pinas?
Alors, un jour on s'est retrouvé avec Gilles, on a décidé de faire un morceau, le choix d'un aphorisme de Nietzsche. Il a choisi la coupure pour que ce soit pas trop long et que ça reste gai, puisque c'est un texte qui est quand même difficile à interpréter, sur la philosophie, et on s'est retrouvé avec Gilles, sa femme Fanny, et Jean-François Lyotard, et puis un ou deux autres amis de Vincennes, dans un studio d'enregistrement à une trentaine de kilomètres de Paris. Et ça donnait Le Voyageur, qui est sorti d'abord sous le nom d'un groupe qui s'appelait Schizo, un 45 tours, qui était donné gratuitement à 5000 exemplaires. C'était une période militante, etc., etc. Et il a été repris tout de suite lorsque j'ai fondé le groupe Eldon, c'est la même année, sous un autre nom qui était Ouais Marché mieux qu'en 68, Marché étant le PDG du Parti communiste à l'époque actuelle, qui faisait 23% et qui avait traité Cohn-Bendit de juif allemand, ce qui avait amené un mouvement de protestation, sans compter ce qu'a fait le Parti communiste en 68, qui était pas très très brillant. Et donc le destin de ce morceau, c'est d'une part d'avoir relativement touché beaucoup de gens à titre gratuit. Il est téléchargeable évidemment sur le site de Leuze, sur le web de Leuze, tout le monde peut le télécharger gratuitement, ce qui est toujours bien. Mais il a eu en plus après ce qu'on appelle, je mettrai des guillemets partout, une carrière, c'est-à-dire d'avoir été constamment repris, référencé, revendu, réimprimé, réimpressionné, que ce soit aux États-Unis, au Japon, ici. Et il a eu un destin assez exemplaire, non, puisque toute une période de la musique, enfin, il est devenu emblématique, sans qu'on s'en soit, sans qu'on l'ait désiré, sans qu'on l'ait prévu, parce que c'était plutôt un amusement pour nous au départ de cette période-là. Aussi bien qu'on le retrouve aujourd'hui encore sur la compilation Nova des années 70, c'est sûr. Enfin, c'est un morceau qui a eu un beau destin.
Il y a une anecdote amusante, hein, puisque le Parti communiste vous a interdit de concert à la fête de l'humanité pendant plusieurs années à la suite de ce...
Voilà, ce qui fait qu'on n'a jamais joué et que finalement on s'en sort bien.
Alors c'est vrai qu'on entend très bien comment la voix de Leuze aussi a évolué, hein, depuis 73.
Est devenue plus grave, une voix très métallique. Donc c'est son timbre, hein, qui m'avait plu énormément. C'est d'ailleurs ce que j'ai retrouvé d'une autre manière chez Dantec, un timbre qui m'émeuve, qui dégage des affects limites, je dirais. Et la voix de Gilles est extrêmement métallique et devient de plus en plus extrême, je dirais, avec le temps.
Alors comment est-ce qu'il a pris cette expérience?
Lui?
Oui.
Bah, il n'est pas tombé malade, ça va. Je crois qu'il était content. Il était content parce que d'abord on était en groupe, que c'était quelque chose de collectif. C'était un énoncé collectif, quoi. C'était une manière de faire quelque chose qui sorte un petit peu. C'est-à-dire, il faut voir comment est-ce qu'il envisageait la philosophie. Il envisageait la philosophie, non pas pour les philosophes, non pas pour les profs de philo ou les élèves de philo, mais pour les gens, tout simplement. Et pour lui, la philosophie devait avoir un point de rencontre, une résonance avec les artistes, avec la littérature, avec la musique, et voilà, je pense que c'est le premier grand philosophe qui est mis en résonance et qui est mis au centre de sa problématique, la musique, la peinture, la littérature, surtout la littérature pour lui, et qu'après, bon, bah, c'est passé un petit peu, c'est ce qui était un outrage, hein, pour l'université à l'époque. Je crois que quand la logique du sens est arrivée, ça a été presque un blasphème, et que depuis, c'est un petit peu rentré dans les mœurs.
Alors, qu'est-ce que ce serait, justement, qu'un philosophe musicien, par opposition, par différence avec un philosophe non musicien? Est-ce qu'il y aurait des philosophes musiciens, bon, comme Nietzsche, hein, plus musicien que comme philosophe, comme compositeur, et puis des philosophes qui ne le seraient pas?
Alors, un philosophe musicien serait un philosophe lumineux. C'est un philosophe de la lumière et du silence. Ça serait la grande philosophie. La philosophie de troisième genre, alors évidemment Nietzsche, Deleuze, il y en a d'autres, probablement Spinoza, puis les philosophes pour professeurs de philosophie, bah on a tous les exemples, Kant, Hegel, etc. Puis il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais ils sauront se reconnaître. Ils sont dans les facultés, quoi.
Alors, cher Pilaz, vous travaillez beaucoup aussi à rendre les concepts de Deleuze opératoires dans le domaine des musiques pop et des musiques techno, des musiques électroniques, notamment de tout un courant anglais-allemand autour du label Mille Plateaux, du label Sub Rosa, des choses comme ça. Et donc pour introduire à cette application conceptuelle, un petit extrait de Scanner, donc un morceau enregistré il y a quelques années, et où Scanner, comme à son habitude, capte des ondes radio qui passent aux alentours grâce à cet instrument si particulier qui donne son nom d'ailleurs au musicien, un scanner.
Non, non, I'm sorry, but I mean, I feel embarrassed too.
Oh, sometimes.
Oh my God, what's that? It's got to be.
We just
walked
out on the street, and guess what? There was like 10,000 people.
Oh, well, that'd be a nice change.
Yeah. I wish that
thing was going to go. Okay, then.
Okay.
God bless.
Good night.
Good night.
Yeah.
that fog was going to happen, baby.
Good night. God bless.
This time.
I'll fetch you.
All right.
I love you. God bless.
When the sun's shining.
When the sun's shining.
Good night.
Good night.
De Delivery, donc un album de Scanner paru sur le label Sub Rosa, encore une fois il y a 4 ans, et on entend donc au début de ce morceau une conversation entre un homme et une femme en anglais, et ils se disent des choses qu'on comprend mal à demi-mot, et puis ils se disent au revoir pendant près d'une minute, ils se redisent au revoir, et le morceau devient presque une chanson, une mélodie. Ils se disent je t'aime, et puis good night, good night, good night, ça finit par The Sunshine, enfin, ça devient presque une mélodie pop, ouais, de Scanner justement. Dans Mille Plateaux, dans le plateau consacré à la ritournelle, qui vient juste après de devenir minimal, de devenir imperceptible, Deleuze évoque justement deux oppositions qu'il oppose d'ailleurs, l'opposition entre matière-forme d'un côté, puis l'opposition entre matériaux-force, et il prend comme exemple emblématique de ce rapport entre un matériau et des forces à capter le synthétiseur. Justement, il va jusqu'à dire, donc avec Guattari, dans un raccourci extraordinaire, le philosophe doit devenir ou doit être un synthétiseur, donc modulaire à la Moog ou à la Buchla, c'est-à-dire quelque chose qui fait entendre justement des ondes oscillatoires.
Ça venait d'une longue discussion qu'on avait eue sur la différence entre les synthétiseurs modulaires analogiques, le Moog. En France, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, on s'en doute bien, et puis les synthétiseurs digitaux. Et lui a réussi à transformer les synthèses analogiques, les synthèses du synthétiseur, le synthétiseur, donc le synthétiseur musical, en synthèse au sens de synthèse kantienne. Enfin, il y a un jeu là-dessus. Il fait ce tour de force de dire en 4 ou 5 pages à la fin de la ritournelle ce que pourrait de dire au mieux un musicien si vous voulez exprimer ce qu'est la musique.
Alors c'est vrai que vous tentez Richard Pinas dans plusieurs textes, notamment dans le livre consacré à Nietzsche, apparu chez Flammarion l'année dernière, de mettre comme ça un peu en rapport certains concepts de Nietzsche ou de Deleuze et certains courants dans les musiques électroniques. Hein, on mentionnait Scanner, on pourrait aussi mentionner Oetaker ou Mouse on Mars, et votre propre travail musical avec Maurice Dante. Oui. Donc expliquez-nous un peu comment ce rapport.
Il faut dire que beaucoup de compositeurs des nouvelles musiques, enfin ou ce qu'on appelle l'intelligence techno, quel que soit le nom, en Allemagne ou en Angleterre, sont des citent très souvent Deleuze. Hein, et il y a comme une espèce de reprise des textes et puis de mise en pratique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est il y a des concepts principaux qui visiblement depuis le départ, hein, depuis les années 70, depuis que j'ai commencé à lire Deleuze, sont ceux qui s'appliquent à la philosophie ou pourraient s'appliquer à la philosophie, sont des concepts fondamentaux de la philosophie et sont des concepts opératoires fondamentaux de la musique. Bon, j'en prends deux ou trois, ceux de différence, ceux de répétition. Ceux d'événements, ceux de durée sont exactement des concepts qu'on retrouve dans la musique qu'on fait, mais qu'on retrouve comme étant des concepts fondamentaux de la philosophie, celle de Deleuze, mais de la philosophie en général. Et on a essayé de voir, de travailler sur un certain rapport théorique entre les concepts opératoires en musique et puis les concepts fondamentaux de la philosophie, qui sont les mêmes. Les concepts de temporalité, de durée, différence de répétition, c'est pas pour rien non plus que la thèse de Deleuze s'appelle différence et répétition. Voilà. Au point même que c'est une idée amusante, mais on va voir arriver cette année beaucoup d'objets, que ce soit des livres ou des musiques, qui s'appelleront événements et répétitions ou répétitions événements. Il y a plein de gens qui, dans des sphères différentes, travaillent sur les mêmes idées. Et en 99, j'ai rencontré Dantec, dont la voix m'a fait à peu près le même effet émotif, enfin je veux dire le timbre de sa voix, que ce qu'avait produit la voix de Gilles. Alors évidemment, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même type de rencontre, mais c'est une autre rencontre. Et il s'avère que Maurice m'a dit qu'il avait lu Deleuze à la suite de cette époque où il écoutait Eldon. Eldon, c'était le groupe dans lequel je jouais 20 ans avant. Et que donc il avait lu Nietzsche et Deleuze grâce à son écoute d'Eldon. Et on a commencé à travailler ensemble suite à une lecture de Des Racines du Mal, qui est son plus beau roman, je crois. Et ça a donné d'une part des textes pour Eldon, mais surtout cette espèce de pointe machinique de travail qui s'est nommé Schizotrope, qui est une musique un peu plus difficile, moins pop, moins rock, une musique de recherche, où on avait décidé de faire des lectures donc de textes de Deleuze, en tout cas sur le premier. Et donc il reprend, on a fait un choix de texte et le disque s'appelle Le Plan. Donc il y a une espèce de trilogie. Une est sortie, celle qui est sortie en 99 s'appelle Le Plan. Il y a eu ensuite les espèces de remix sur scène après la tournée américaine qui s'appelle Vie et mort de Marie Zorn, où c'est toujours la reprise des textes de Deleuze. Et le dernier disque qui sera le dernier de la série qui s'appelle Le Pli, qui est sorti cette année et où il y a un mélange de textes de Nietzsche, de Deleuze et de Nantec.
Alors Eldon, justement.
Real. Matter is illusion, energy is illusion, we are illusion. Only chaos is real, only chaos is real. And the music moves through the spheres, and the walls of the world grow ears. And down from the trees come, to the beat of the broken drum. And the talking in a brain becomes a runaway train. Space is illusion, time is illusion, we are illusion. Only chaos is real, only chaos is real.
Eldon donc, alors pas l'Eldon des origines, l'Eldon mythique, mais l'Eldon reconstitué il y a deux ans, en l'an 2000, donc avec David Kahn, on entend la voix autour donc de vous,
Dantec et Dantec et de Norman Spinrad, l'écrivain de science-fiction américain, Dantec et Spinrad faisant à la fois les paroles et les synthés.
Alors comment réagit le public en France ou ailleurs à la voix de Gilles Deleuze quand elle surgit comme ça de nulle part?
Le grand étonnement, c'était de voir que les tournées américaines qu'on a pu faire, enfin les concerts là-bas, les gens donc écoutaient Maurice réciter Deleuze, uniquement Deleuze, et en français, donc la plupart ne comprenaient pas, et qu'il y avait une espèce de devenir matériaux, quoi, que les intensités passaient sans qu'il y ait une compréhension du discours. C'est-à-dire que la voix était devenue comme un instrument, et ça passait extraordinairement bien.
Bah, la voix de Maurice Dantec, elle est travaillée quand même quand vous faites des concerts, et vous utilisez les différents effets qui la transforment.
Ouais, ouais. Elle est travaillée en temps réel par diverses machines, des synthétiseurs de voix, des lignes de retard, des choses comme ça.
Est-ce que c'est pour retrouver un peu ce que disait Deleuze justement sur le...
Non, c'est pour essayer de faire du matériel linguistique que sont les mots, du matériau musical, du matériau sonore. Donc il y a tout un travail de transformation de la simple matière au matériau. Ou bien qu'il y ait un travail quelque part.
Et ce travail-là, il n'était pas nécessaire de le faire par exemple sur la voix de Deleuze lui-même. Et pourquoi ne pas l'avoir tenté de le faire en 73 sur sa propre voix?
D'abord en 73 c'était un petit peu difficile. Ouais. Ensuite il y avait le fait que sa voix, d'abord on n'a fait qu'un morceau principalement, donc il n'y a pas eu beaucoup d'essais, et que sa voix était suffisamment déterritorialisée, extravagante pour la laisser comme telle, pas besoin de machine.
Pour finir cette série de Le Chemin de la Musique consacrée à Deleuze et la musique, je voudrais évoquer la discothèque de Gilles Deleuze. C'est vrai qu'on évoque beaucoup les bibliothèques des philosophes, hein, notamment celle de Descartes ou de Spinoza, qu'on connaît maintenant très bien. Et peut-être que l'on pourrait, au XXe siècle, évoquer la discothèque des philosophes. Que serait la discothèque de Husserl? Que serait la discothèque de Heidegger? Que serait la discothèque d'Emmanuel Lévinas? Et que serait justement la discothèque de Gilles Deleuze? Alors une question que j'ai posée à son amie compositrice, Pascal Criton.
Moi, je pense que pour Deleuze, la musique, c'était dehors. C'était à l'extérieur, c'était les rencontres, et c'était des événements, des opportunités. Parce que, si je me souviens bien, pour livrer une anecdote que j'espère juste, les machines ne marchaient pas chez lui. Et donc, je suis pas sûre qu'il ait disposé régulièrement d'appareils de reproduction sonore qui fassent que il pouvait écouter ses œuvres préférées. Il était dans la recherche du remarquable. Il était au guet. Il le disait pour le cinéma. Il disait qu'il allait au cinéma parce qu'il faisait le guet. Il guettait l'occasion, le moment pour localiser quelque chose qui l'intéressait. Mais c'est pas pour ça qu'il visionnait nuit et jour des films ou qu'il écoutait de la musique. Sa nourriture était pas là. Sa nourriture était dans le fait de faire avancer ses concepts. Et souvent il me disait: il faut d'abord que je comprenne. Voilà, c'était une de ses phrases. Il faut d'abord que moi je comprenne. Et sa manière d'y arriver, eh bien, elle était particulière. C'était un détour, c'était des détours à lui, et c'était pas des modes, des modalités standards, usuelles. C'était pas forcément d'écouter un disque qui allait une œuvre qui allait lui révéler l'œuvre.
Pinas prépare donc avec Maurice Dantec et Jérôme Schmitt un ouvrage sur la naissance de l'électricité à paraître dans 2 ans aux éditions Léo Cher, et puis un prochain album solo, Events and Repetitions, à sortir aux États-Unis, donc sans Maurice Dantec cette fois-ci, sans doute pour l'année prochaine. C'est la dernière émission de notre série sur Gilles Deleuze, donc une très bonne fin de matinée à vous sur France Culture. Cette émission a été réalisée par Laurent Rousseau avec à la technique Yves Baudry.
France Culture dans une minute, 11h. France Culture, à l'heure de la pensée de Gilles Deleuze, jusqu'au 3 mai. Enquête, portraits, témoignages de ceux qui l'ont écouté, lu, approché, cours inédits et archives, Deleuze et la musique, la peinture, Deleuze et le cinéma, Deleuze ou une certaine approche de la philosophie, Gilles Deleuze, vitesse infinie, jusqu'au 3 mai, sur France Culture. Prochain rendez-vous avec le philosophe tout à l'heure dans Mémorable à 11h30. Politique fiction sur France Culture.